La meilleure défense de la démocratie, ce sont ses lois. Mais si l'on vient nous attaquer, chaque citoyen doit se battre comme un soldat.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire pour le cinquième et dernier épisode de notre série consacrée cette semaine à la naissance en Grèce de la démocratie. Les Athéniens ont-ils inventé la démocratie? C'est la question à laquelle nous essayons de répondre cette semaine avec l'historien Vincent Azoulay, spécialiste de la Grèce antique. Dans l'épisode précédent, nous avons évoqué Périclès, le stratège qui, au 5e siècle avant Jésus-Christ, a incarné la démocratie athénienne. Dans la seconde moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ, l'issue de la guerre du Péloponnèse va mettre en péril la démocratie athénienne. Cette guerre avait débuté en 431 avec Sparte, qui s'inquiétait de l'hégémonie grandissante d'Athènes. Au tournant des années 410, la situation se renverse quand la flotte athénienne, jadis invincible, est détruite à Aigos Potamos dans les Dardanelles par le général spartiate Lysandre. En quelques heures, l'empire maritime d'Athènes s'effondre. La guerre du Péloponnèse se termine en 404 avec la victoire totale de Sparte et la capitulation d'Athènes, qui, encerclée sur terre et sur mer, gagnée par la famine, divisée entre partisans de la résistance et partisans de la reddition, est contrainte finalement de se rendre. Une reddition que l'on connaît grâce au récit de l'historien grec Xénophon. Quand les Athéniens furent réduits à l'extrémité, écrit-il, ils se résolurent à obéir à tout ce que les Spartiates voudraient ordonner. Alors que les Athéniens s'attendent à être réduits en esclavage et à voir leur ville détruite, les Spartiates se montrent relativement cléments. Athènes doit cependant renoncer à son empire, payer un tribut à Sparte et lui livrer ses vaisseaux. Et elle perd ses remparts, les longs murs qui relient la cité au port du Pirée.
Aujourd'hui, 6e jour du mois Monikion, de la première année de la 64e Olympiade, par ordre de Lysandre de Sparte, notre valeureux Polyarque, selon les conditions que nous avons imposées à la cité d'Athènes, nous allons commencer la démolition de ces murailles.
D'après le récit de Xénophon, les murailles d'Athènes sont détruites avec enthousiasme, comme lors d'une fête, dit-il, au rythme endiablé des holos, ces flûtes traditionnelles grecques au son puissant et perçant.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Cette défaite a aussi des conséquences politiques. Le général spartiate Lysandre, qui a remporté la bataille navale sur Athènes, accorde la paix aux Athéniens à condition qu'ils appliquent la constitution de leurs ancêtres. Lysandre impose en effet à l'Ecclésia un changement de régime. Le nombre de citoyens est ramené de 20 000 à 3 000 et le véritable pouvoir confié à un conseil de 30 notables, un gouvernement oligarchique appelé le gouvernement des 30. Ses membres sont choisis parmi les amis de Théramène, le négociateur de la reddition, et de Critias, un aristocrate athénien favorable à Sparte, convaincu que la démocratie a ruiné Athènes. Les 30 désignent eux-mêmes les 500 membres de la boulée, le conseil chargé de préparer les lois. C'en est fini donc de la démocratie qui faisait depuis près d'un siècle la fierté des citoyens athéniens. Très vite, le pouvoir des 30 tourne à la tyrannie. Les 30, écrit Xénophon, croyant qu'ils ne seraient jamais en sûreté tant qu'ils laisseraient subsister beaucoup d'hommes d'une âme libre, se mirent à tuer ceux qu'ils redoutaient. Les 30, en effet, procèdent à une série d'arrestations et même d'exécutions de métèques et de citoyens riches dont ils confisquent la fortune. Plusieurs auteurs grecs, dont Aristote, estiment le nombre de victimes de la tyrannie des 30 à 1500 hommes, un chiffre considérable pour une population d'environ 40 000 citoyens mâles. Mais ce gouvernement ne dure que quelques mois. Des exilés, favorables à la démocratie, organisent la résistance hors d'Athènes. Des combats reprennent et en 403, les Athéniens restaurent la démocratie.
Peuple d'Athènes, la tyrannie est morte. La constitution démocratique est enfin rétablie. Nous veillerons tous ensemble à ce que tous les citoyens d'Athènes respectent la loi.
Vincent Azoulay, après la défaite d'Athènes, donc à la guerre du Péloponnèse en 404 avant Jésus-Christ, et l'instauration de la tyrannie des 30, la démocratie est finalement restaurée à Athènes. Athènes a dû être ébranlée dans sa confiance en soi après cette défaite face à Sparte. Ou bien au contraire, elle a été raffermie.
Alors, c'est effectivement, non, elle a été ébranlée, ô combien, par cette guerre qui a au moins divisé par deux sa population citoyenne, parce que l'épidémie de peste ou de typhus, puis les guerres extrêmement sanglantes, et notamment l'expédition de Sicile, donc il y a une brutalisation de la vie politique athénienne qui aboutit à cette guerre civile en 404-403. Mais c'est vrai que ce qui est frappant, c'est la résilience du régime démocratique qui renaît très vite de ses cendres et qui, au IVe siècle, s'affermit. C'est vrai qu'il y a un cliché qui a circulé pendant longtemps, mais qui a été battu en brèche depuis plus d'un demi-siècle, qu'il y avait un déclin de la démocratie athénienne après la guerre du Péloponnèse. Ce n'est pas du tout le cas. Maintenant, tous les historiennes et les historiens sont unanimes pour dire que l'âge d'or de la démocratie, c'est peut-être même pas le Ve, c'est le IVe siècle. Le IVe siècle où cette démocratie s'enracine, se normalise avec des lois, des décrets, une justice populaire qui n'a jamais été aussi exigeante, un pouvoir personnel qui est disséminé dans un grand nombre de mains. Donc une démocratie solide, vivace, et qui ne disparaît, et encore momentanément, que sous les coups de boutoir des Macédoniens. Philippe II, puis Alexandre le Grand, son fils. C'est donc une démocratie vivace auquel on a affaire durant ce long IVe siècle.
Il y a quand même des oppositions, on l'a compris, au sein même d'Athènes. Il y a des Athéniens, citoyens, qui sont favorables à Sparte, qui sont, pendant cette période un peu compliquée de la tyrannie des 30, qui ne dure effectivement pas longtemps, mais qui est quand même révélatrice de quelque chose, d'une fragilité et aussi d'une opposition à l'intérieur même de la ville. Socrate, d'ailleurs, en est un exemple.
Oui, tout à fait. Il y a une grande complexité de la situation politique durant les dernières années de la guerre. Et effectivement, les oligarques qui jusque-là étaient muselés vont d'une certaine façon, à la faveur de la perte d'influence d'Athènes, regagner du pouvoir et de l'influence au sein de la cité jusqu'à renverser le régime avec l'appui des Spartiates. Mais ce qui est frappant tout de même, c'est à quel point leur pouvoir a été fragile et s'est effondré très rapidement. Et au IVe siècle, il n'y a plus de contestation de la démocratie, si ce n'est dans les murs des écoles philosophiques, chez Platon. Mais ça, c'est au sein de l'Académie, toléré par les Athéniens, puisque c'est à Athènes, mais d'une certaine façon, alors que le régime est incontesté.
Est-ce que l'explosion artistique, philosophique, littéraire, théâtrale, architecturale, donc des 5e et 4e siècles à Athènes, est-ce qu'Athènes le doit justement à la démocratie ?
Oui. Fondamentalement, oui. Il y a, notamment, si on prend la tragédie ou la comédie, une expérience de réflexivité, de retour sur soi des Athéniens par le biais d'une esthétique et d'une forme nouvelle qu'est la tragédie, où l'on se pose des grandes questions à distance, avec des personnages mythiques. Mais c'est absolument extraordinaire la manière dont les Athéniens se sont ainsi interrogés, et interrogés vivement, sur leur travers, sur la façon de conduire une guerre, de traiter les vaincus. Et tout cela, ça se fait par des formes esthétiques. Alors la tragédie en est un exemple. La comédie, c'est une manière aussi de mettre sous contrôle les élites, parce que ces élites et Périclès au premier chef, mais toutes les élites athéniennes sont moquées, traînées dans la boue avec une violence extraordinaire. Donc ces formes esthétiques sont pleinement politiques.
Aristophane, même si c'est pas un grand féministe forcément, mais le fait de décrire cette pièce, de la montrer, c'est quand même de l'Assemblée des femmes, c'est quand même un exercice qui fait réfléchir.
Oui, elle fait réfléchir les citoyens au même titre qu'à l'Assemblée. Et même, elle les éduque souvent à se prémunir contre les prestiges des orateurs trop persuasifs, les démagogues. Donc, c'est la comédie fait partie de la formation continue des citoyens athéniens qui, en voyant les pièces, peuvent ainsi essayer de lutter contre les phénomènes de séduction oratoire.
Au début de cette émission, Vincent Azoulay, je posais la question de savoir si les Grecs avaient quelque chose à nous apprendre sur notre démocratie, au risque de l'anachronisme, parce que c'est une question pertinente. Qu'est-ce que les Athéniens faisaient mieux que nous ?
Je pense qu'ils donnent à la démocratie un sens extrêmement vif et qu'on ne peut pas résumer simplement sous le terme démocratie directe. Parce que démocratie directe, tout de suite, on va avoir tendance à dire « Ah oui, mais aujourd'hui, avec nos sociétés complexes de plusieurs millions d'habitants, c'est absolument impossible. »
Oui, dans des grands pays.
Dans des grands pays comme les nôtres. Mais en réalité, si on pense que la démocratie, c'est par exemple la délibération collective, assortie à de véritables décisions, eh bien, les expériences de la Convention citoyenne sur le climat, sur la fin de vie, ce sont des expériences délibératives extraordinaires, mais qui n'ont pas de débouché politique. Donc, retourner à Athènes, c'est penser des délibérations qui ont des conséquences, et des conséquences bien réelles. Si on pense que la démocratie, c'est essayer de limiter l'accumulation du pouvoir, alors les expériences liées au tirage au sort, à la rotation des charges, c'est quelque chose qui ne dépend pas de la taille du pays ou de sa complexité. Et si enfin on pense que la démocratie, c'est le contrôle des élites, par toute une série de moyens formels et informels, eh bien là aussi, on est face à quelque chose qui ne dépend pas de la taille et de la complexité d'une société. Et cela, je ne dis pas que les Athéniens le faisaient mieux que les autres, mais en tout cas, ils ont inventé des formes inédites dans l'histoire qui sont encore pour nous, potentiellement, des sources d'inspiration.
Merci beaucoup Vincent Azoulay. Je recommande vivement la lecture de votre livre « Périclès, la démocratie athénienne à l'épreuve du grand homme » paru en 2011 chez Armand Collin et à paraître en 2026 « Ostracisme, du bon usage de l'arbitraire en démocratie » aux éditions de l'EHESS.